France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à toutes et à tous. Et nous avons appris hier soir la mort de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République entre 1974 et 81, est décédé des suites du Covid-19, entouré de sa famille dans le Loir-et-Cher à Autun. Et depuis hier, les hommages se succèdent. Pour le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, l'idéal européen perd l'un de ses fondateurs. La France, elle, perd un président qui lui a apporté la modernité et de l'audace. Au Sénat, après avoir respecté une minute de silence tard hier soir, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a salué l'auteur de nombreuses réformes novatrices qui marquent encore aujourd'hui la société française. Elle cite notamment l'abaissement de la majorité à 18 ans, la légalisation de l'IVG ou encore la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine qui avait été confié à la journaliste Françoise Giroux. Valéry Giscard d'Estaing, symbole d'une jeunesse pendant les Trente Glorieuses. À 48 ans seulement, il était devenu le plus jeune président de la République, battant François Mitterrand, puis battu par le socialiste en 81. Une fin de septennat bouleversée par le scandale des diamants de Bokassa. Sachez qu'ensuite, en 2001, il avait pris la tête de la Convention pour l'Europe, chargée de rédiger une constitution européenne qui sera finalement rejetée par référendum. Après la France et l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing se tourne vers la littérature. Consécration en 2003, il est devenu immortel au sein de l'Académie française. Nous retracerons la vie de l'ancien président dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. L'actualité ce matin, c'est aussi le Royaume-Uni qui devance l'Union européenne dans la course au vaccin. Dès la semaine prochaine, la campagne va débuter outre-Manche avec les laboratoires Pfizer et BioNTech. La France, elle, devra attendre l'aval des autorités sanitaires européennes. Les premiers vaccins sont attendus dans un mois. Aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex dévoilera le plan de vaccination pour le pays. Et puis, deux sièges d'écart dans les lieux de culte et un rang de séparation. Voici la nouvelle règle sanitaire mise en place par le gouvernement, mesure qui devrait être encore assouplie pour les fêtes de Noël.
Le jeudi, tirons des plans sur la comète, Dominique Rousset.
Avec nos géographies, une intrusion par les cartes et les territoires dans les champs du politique, du social, de l'écologie, des pratiques culturelles, grâce à l'exploration d'une discipline à la fois très ancienne et sans cesse renouvelée, assez méconnue en fait. Nos géographies, le titre que nous avons choisi, parce qu'elles sont diverses et qu'elles parlent toujours de nous, où qu'elles se trouvent.
Nos géographies, le jeudi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Inédit sur France Culture, Le Grand Moulne, célèbre et unique roman d'Alain Fournier. Un programme de lecture intégrale réalisé et diffusé en direct dans le feuilleton. Fin du 19e siècle dans un village de Sologne. Un jour, arrive Augustin. Le mystère de celui que tous appellent bientôt le Grand Moulne va bouleverser l'adolescence de François, le narrateur. Le plonger dans une aventure qui déterminera toute sa vie. Lu par Pierre-François Garel, en direct de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure de retrouver Bruno David pour sa chronique Le Monde Vivant autour du kiwi ce matin.
Lorsque l'on évoque un kiwi, la première image qui vient à l'esprit est celle d'un petit fruit vert un peu pelucheux. Un fruit fort sympathique car délicieux et en plus excellent pour la santé. Toutefois, ce n'est pas ce kiwi que je souhaite évoquer aujourd'hui, mais une jolie boule de plumes duveteuse en forme de poire, montée sur deux pattes et ornée d'un long bec, courbe et flexible. Il s'agit du kiwi, oiseau emblématique de Nouvelle-Zélande. Cet oiseau d'une cinquantaine de centimètres est grisâtre à brunâtre, et surtout il ne possède ni aile ni queue apparente, bref un drôle d'oiseau. Avec leurs ailes réduites à des moignons, mais par ailleurs pourvues d'une griffe, les kiwis sont cloués au sol. Ils fréquentent les forêts de nuit. Contrairement aux chouettes dont les yeux sont très performants, les kiwis ont de tout petits yeux, les plus petits de tous les oiseaux, et certains kiwis sont même aveugles. De fait, les kiwis ne se servent tout simplement pas de leurs yeux. Dans l'obscurité, pas besoin de voir. Malgré ce handicap qui paraît difficile à surmonter, le kiwi est un chasseur. Il traque les vers, les insectes et autres arthropodes de la litière forestière, et à l'occasion, quelques larves, graines, fruits ou amphibiens. Mais comment fait-il ? il chasse à l'odorat qu'il a très développé. Les narines sont projetées à l'extrémité du bec, ce qui est exceptionnel chez les oiseaux. D'autres capteurs olfactifs sont localisés au bout du bec et sur la mandibule. Il chasse aussi au toucher, à l'aide de grandes soies raides et sensibles situées à la base du bec, des équivalents de vibrisses, un peu comme les moustaches du chat. En outre, le kiwi a l'ouïe très fine. Donc, aveugle ou malvoyant, les autres sens du kiwi sont affûtés. Autre curiosité, l'œuf est d'une taille record en proportion de l'animal. Il pèse 25% de la masse du corps. Quelques jours avant la ponte, l'œuf prend tellement de place que l'estomac s'en trouve comprimé et que la femelle doit cesser de s'alimenter. Enfin, oiseau de tous les records, le kiwi présente le plus gros génome connu chez les oiseaux, avec 1,65 milliard de nucléotides. Les kiwis sont endémiques de Nouvelle-Zélande. Pas étonnant puisqu'ils ne volent pas. Les scientifiques ont même découvert que les populations des différentes vallées forestières ne se croisent pas. Notre kiwi est donc casanier. Tant et si bien qu'il pourrait exister plus d'espèces de kiwis que l'on ne le croit, on en dénombre 5 aujourd'hui, mais il ne serait pas étonnant que les populations isolées s'avèrent être de nouvelles espèces. En attendant, avec ses yeux atrophiés, ses ailes en moignons et son bec mou, le kiwi est une sorte de négatif d'un aigle à la vue perçante, aux grandes ailes et au bec redoutable. Tandis que bien des pays s'approprient l'aigle glorieux dans leur héraldique, la Nouvelle-Zélande brandit fièrement son kiwi jusque sur les maillots de son équipe de rugby, à 13. Pas si mal pour un drôle d'oiseau.
Matière grise et café noir, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jeudis, on se réveille en musique. Et aujourd'hui, en compagnie d'Elina Duny, chanteuse à voix, comme on dit, chanteuse de jazz. Elina Duny, artiste helvéto-albanaise qui vit à Londres depuis quelques années, sort un nouvel album. Son répertoire mêle des chants traditionnels des Balkans, quelques standards américains ou français repris avec une extrême sophistication, et des compositions originales avec le guitariste Rob Loft. Titre de l'album, Lost Shift, les bateaux perdus. Propos actuels sur les migrants en général et les drames en Méditerranée en particulier. On écoute justement la chanson qui donne son titre à l'album et on retrouvera Elina Duny tout de suite après.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
I will dream of a blue home where the limit is the sky. Where every morning I will hear the whispers of the sea. Joyful waves rumbling, so I'll dive in deep down and leave the world behind. 'Cause I wanna be a be free. I wanna be a fish, but there's no more fishes in the sea. I wanna be a whale. I wanna be free. Well, something else is moving around.
Elina Duny.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance.
Oui.
Les bateaux perdus, oui. Cette chanson sur les drames en Méditerranée, cette chanson sur les exilés, c'est un thème qui revient assez souvent dans votre répertoire, puisque vous avez déjà enregistré quelques albums, 4 albums je crois, avec votre formation jazz plutôt, en quartet, avec entre autres le pianiste Colin Vallant. Dans ce dernier album, plus ouvert sur la pop, avec le guitariste Rob Loft, on retrouve une envie de ne jamais oublier d'être la voix de ceux qui n'ont plus de voix, c'est ça ?
Ah oui, en fait, c'est un peu ça, et c'est aussi, je suis moi-même une fille de l'exil. J'ai eu la chance de vivre un exil pas trop difficile, mais je suis partie de l'Albanie à l'âge de 10 ans, et j'ai dû rebâtir, en fait, quand je suis arrivée en Suisse. Oui, exactement. Mais c'était quand même un exil de luxe, puisque j'étais avec ma mère, qui, elle, s'est mariée avec un Suisse. Donc, c'était plutôt une sorte de réadaptation, comme ça, d'apprendre la langue, et puis d'être dans la solitude pendant une année. Mais je pense à tous ces migrants qui vivent des exils tragiques et qui laissent aussi souvent quelque chose de tragique derrière eux. C'était aussi le thème de partir de mon album solo, de mon dernier album. Mmh. Et cette fois, en fait, c'est plutôt des compositions originales. C'est des lamentos, mais en même temps, j'avais juste envie de qu'on n'oublie pas, mais en même temps qu'il y ait toujours une sorte d'espoir. Et je pense que ce disque, il a un côté quand même solaire et léger, qui dit ok, les choses sont telles qu'elles sont, mais on peut pas les laisser comme ça, mais on peut quand même faire quelque chose. Et il faut pas qu'on oublie. Ça veut dire il faut pas qu'on ferme nos cœurs, ou il faut pas qu'on arrête de regarder. Parce que chaque fois que je vois la Méditerranée, je suis une fille de la Méditerranée, je pense à ce drame. Je n'arrive pas à l'oublier. Ça, c'est un petit peu ma participation.
En Suisse, vous apprenez la musique, ou la musique était déjà présente dans votre enfance en Albanie, Elina Duni ?
J'ai déjà chanté à l'âge de 5 ans, en fait. Je suis montée sur scène pour la première fois, donc la musique était déjà très présente. En Albanie, je chantais pour la radio, la télévision, dans différents festivals pour enfants, donc j'étais déjà connue dans ce milieu-là des enfants, en fait, et de la chanson. Comme mon père est metteur en scène et acteur, j'avais l'habitude toujours de monter sur scène quand la pièce était finie et quand tout était vide. Je montais sur scène et je commençais à réciter, à chanter. J'imaginais que c'était plein et qu'on m'applaudissait. Je crois que j'avais cette envie, en tout cas, d'être sur scène et de dire quelque chose déjà très tôt. Je fus découverte par un compositeur de musique d'enfant. Je marchais comme ça à Tirana au bras de ma mère et j'avais toujours l'habitude de chanter. Et puis elle s'arrête pour rencontrer cet ami et il m'entend chanter et il dit à ma mère, ah, mais ta fille, elle chante super, amène-la voir pour qu'on fasse une répétition et puis j'écrirai une chanson pour elle. Et ça s'est fait comme ça. Et je me souviens que je suis arrivée, on a fait la chanson et ensuite j'ai répété avec tout un orchestre. Pour moi, c'était, il y a une sorte d'évidence comme ça, c'était très naturel d'être sur scène, et puis je savais quand est-ce qu'il fallait rentrer, quand est-ce qu'il fallait s'arrêter, quand est-ce qu'il fallait recommencer. Donc, j'ai juste eu peur le premier moment où j'ai dû monter sur scène avec le public. Là, c'était la première fois que j'avais un peu peur et je connaissais pas ce sentiment. Et j'ai demandé à ma mère, mais qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que je ressens ici, sur ma poitrine? Et puis elle a rigolé. Parce qu'elle m'a dit, c'est le trac. Et c'était la première fois que je ressentais ça.
Vous continuez donc à chanter quand vous arrivez en Suisse à l'âge de 10 ans avec vos parents en 1992. Est-ce que vous avez eu une formation musicale, Elina Duni ?
Oui, absolument. Donc en Albanie, j'ai étudié le violon, puis j'ai chanté. Et ensuite, en arrivant en Suisse, j'ai fait du piano parce que je voulais toujours faire du piano classique au conservatoire de Genève. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un bac artistique en Suisse, où j'ai continué avec le piano, la musique, le chant. Et puis, j'ai fait mes études à la Haute École des Arts de Berne, où j'ai étudié le jazz, la composition et l'arrangement. Donc oui, j'ai fait des études de musique depuis ma petite enfance.
Dans votre dernier album, Lost Shifts, mais aussi dans les premiers albums que vous avez réalisés avec votre quartet, il y a toujours une reprise d'un chant folklorique albanais, ou du moins ce que moi j'imagine comme être un chant folklorique albanais, mais ça peut venir des Balkans.
Alors, déjà, on a fait 4 albums avec le quartet, dont 2 sur ECM. Et au début, c'était surtout des chants des Balkans. Donc, c'était aussi de l'Albanie, bien sûr, mais il y avait aussi la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie. Et ensuite, les 2 albums sur ECM, donc les 2 derniers avec le quartet, étaient principalement que des chants en albanais. Donc, je me suis concentrée sur l'Albanie. Et puis, le solo, c'était 9. Je chantais en 9 langues à partir, dont aussi en arabe, et puis en yiddish et en portugais. Donc, je prenais vraiment comme ça toute la Méditerranée, puisque j'avais envie de montrer en fait cette universalité de la partance. Et sur le dernier album, je chante seulement en 4 langues. Il y a pas mal d'anglais, il y a pas mal de français aussi. Donc, j'avais envie en fait de chanter l'exil ou l'amour d'une façon un peu plus contemporaine à travers des compositions originales. Donc c'est là où je trouve que cet album il annonce une autre couleur, déjà parce que c'est la première collaboration avec le magnifique guitariste Rob Loft. Et le son est différent, et il y a quelque chose, je dirais, un peu plus léger, solaire, et plus contemporain.
Et Nat Zaman, ça veut dire quoi, cette belle chanson qui garde tous ses mystères?
Alors, cette chanson, veut dire, en fait, j'ai juste raccourci le titre, mais en fait, ça s'appelle Nat Zaman Tenyasai Foriye, donc dans l'heure de cette tempête. C'est un homme, c'est une chanson d'amour, d'un homme qui dit à la femme qu'il aime que si je ne t'épouse pas, bah, je vais tout simplement mourir d'amour.
Et c'est en
Voilà.
albanais.
Ça, c'est de l'albanais. Oui, il y a sur le dernier disque, il y a 2 morceaux en albanais qui sont tous les deux du nord de l'Albanie, d'une très belle ville qui s'appelle Shkodra, au nord de l'Albanie, que les Romains appelaient déjà Skoutari, donc c'est une ville assez ancienne et qui a une grande tradition musicale. Ces chansons, elles datent des années 20, 10, 20. C'est des chansons, ce qu'on appelle en Albanie, des chansons folkloriques des villes, et qui sont inspirées en même temps des arias italiennes, parce qu'il y a une grande influence de l'Italie, et en même temps, bah, bien sûr, de tout cette couleur byzantine, ottomane, orientale. Donc, c'est vraiment un mélange de l'Est et de l'Ouest.
Not the
Tadish, ça veut dire quoi, Elina Duny, Tadish?
Si tu savais, si tu savais la peine que j'ai, c'est ça qu'il dit, et je ne pourrais pas ne pas t'avoir, donc ne pas te marier. Je ne te laisserai pas sans te marier.
Votre voix a l'air habitée quand vous chantez en albanais.
Bah, je pense bien sûr qu'il y a une différence, mais c'est aussi, c'est très différent de chanter des chansons folkloriques que de chanter des compositions originales. J'espère quand même que ce que je raconte, est tout aussi intéressant quand je le raconte, en français ou en anglais ou en albanais. C'est un peu le but, en fait, qu'il n'y ait pas une grande différence dans tout ça. Mais c'est des chansons qui sont extrêmement intense et profonde et qui porte un message universel et c'est très touchant en fait. Même quand on comprend pas la langue, on est touché. Et ça, c'est la même chose. Moi, là, je vous parle, je suis en Égypte, j'entends des chansons en arabe, je comprends pas et ça me touche énormément parce que, voilà, c'est les mélodies, c'est les voix, c'est le pathos. On ressent tous ça. Donc c'est un petit peu ces ponts universels, c'est un peu ce qui nous relie en fait, au-delà de la langue et au-delà des cultures, ce qui nous relie c'est toujours la même chose, c'est l'amour, la mort, la liberté. Donc voilà.
Et puis l'exil, et puis surtout les voyages, Elina Duny, vous qui êtes née en Albanie,
exil.
Vous qui avez grandi en Suisse, je pensais que vous étiez à Londres, que vous viviez à Londres depuis 3 ans, mais vous nous dites que vous êtes en Égypte là aujourd'hui.
Alors en fait, je suis en Égypte parce que j'ai joué ensemble avec Rob Luft, on a joué au festival de jazz du Caire, puisqu'on fait encore des concerts en Égypte, et oui, c'est ça notre chance. Et comme on était ici, comme il faisait beau, comme la vie ici continue, il n'y a pas de confinement, bah en fait on n'avait pas très envie de revenir en Europe, donc on a décidé de rester pour quelques temps. Et on a croisé pas mal de personnes venant d'Europe ou du Canada ou des États-Unis qui sont un peu, je les appelle maintenant les réfugiés corona. Donc on est un peu des réfugiés corona en Égypte.
Parlons de votre voix, Elina Duny, puisque vous êtes en ce moment en Égypte, c'est-à-dire dans le pays de Oum Kalsoum. Vous avez justement une voix de diva, une voix d'opéra. Vous avez quelque chose qui de l'ordre de l'incantatoire dans votre voix.
Oui, alors bien sûr, je travaille ma voix. J'ai étudié aussi le classique pendant mes études de jazz. Je l'utilise bien sûr pour la technique parce que techniquement, c'est là où on apprend le plus. Et après le reste, ça devient comme une sorte de deuxième nature. Après, je me laisse un peu guider par les sons que j'aime faire, mais Ce que je trouve très intéressant, moi j'ai beaucoup écouté une chanteuse norvégienne qui s'appelle Sidsel Andresen et on lui demandait une fois comment interpréter une chanson. Et elle a dit quelque chose de très juste, elle a dit il faut se concentrer sur le son. Et si le son est juste, bah, l'interprétation elle vient d'elle-même. Et c'est ça que je trouve toujours un petit peu difficile de trouver l'équilibre entre, quand on chante une chanson comme celle-là, entre les ornements, entre ce qu'il faut dire et ne pas dire, ça veut dire ce qu'il faut sous-entendre, jusqu'où on peut faire ce lamento et comment trouver, rester quand même dans cette distance pour laisser l'auditoire pouvoir projeter sa propre vie ou son propre ressenti. Donc pour moi c'est très important de jamais en faire trop. D'essayer de trouver cet équilibre juste. Et c'est dans ce son que je me retrouve. En fait, le son, il est un peu comme la vie. Donc, la vie, des fois, c'est un murmure, des fois, c'est un, on a envie d'hurler, et des fois, on est rempli d'amour, et c'est quelque chose de beaucoup plus chaud et chaleureux. Donc, le chant, c'est la même chose, la musique, c'est la même chose, ça bouge, et c'est un mouvement perpétuel. Donc, j'essaye un petit peu dans l'exploitation de ma voix et de mes sons de faire cette même chose, mais c'est inconscient en quelque sorte.
Vous reprenez quelques standards dans ce dernier album. Il y a un grand standard anglais et un grand standard français. Qu'est-ce qui guide vos choix quand vous faites des reprises? Parce que vos reprises sont très très particulières. Ce sont des reprises retravaillées, sophistiquées. Mais d'abord, le choix des standards, Elina Duny.
C'est des chansons qui me touchent particulièrement et dont je trouve qu'ils ont une résonance universelle. C'est exactement la même chose. Je choisis exactement pour la même raison certaines chansons folkloriques et les standards pour les mêmes raisons. Donc pour moi, il doit y avoir cette chose universelle qui nous touche tous. Et il y a comme ça des grandes chansons qui sont immortelles et qui n'ont pas d'âge en fait.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. can be true. A love that's there.
Reprendre un standard de Frank Sinatra qui lui-même a été interprété par Billie Holiday et Lina Dunny, ça relève quand même du défi. Vous en sortez bien d'ailleurs, puisque vous nous offrez une version très épurée, très personnelle.
Pour moi, je trouvais que j'avais quelque chose à dire avec cette chanson et j'ai, en toute humilité, j'ai essayé d'en faire ma version. Je connais surtout la version de Billie Holiday. Enfin, j'associe cette chanson énormément avec Billie Holiday, qui est une de mes chanteuses préférées, grâce à laquelle je suis rentrée aussi dans le jazz. Et en fait, cette chanson est aussi une chanson qui est pas trop reprise justement, mais voilà, il faut pas trop se poser la question. Dans mon premier album avec le quartet en 2008, j'ai repris Avec le temps de Léo Ferré, et un journaliste m'avait justement posé la question: ne pensez-vous pas que vous êtes un peu une pomme verte pour reprendre cette chanson? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une pomme verte dans ma version, mais voilà, il faut l'assumer finalement. Ouais, exactement, il faut pouvoir, j'assume totalement qu'on puisse aimer ou ne pas aimer.
Elina Dunny, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre dernier album Lost Shift sort, et on va terminer par une autre reprise, une reprise d'un standard français. Alors, même si on le reconnaît pas aux premières notes, parce que ça a été complètement réarrangé par vos soins, mais aussi par le guitariste Rob Luft, qui arrange les morceaux de votre dernier album, on finit tout de suite par savoir de quoi il s'agit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Elina Dunny. À bientôt.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme en jeu de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures.
Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Ludovic Auger. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Agatha Christie disait être une romancière mineure qui n'écrivait que par plaisir.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mais faut-il se fier à celle qui joue l'innocente et l'ingénue ? N'y a-t-il pas, au contraire, une fine peinture de caractère et une très grande science du suspense dans ses 66 romans et ses 18 pièces de théâtre ? Vous croyez avoir la réponse ? Attendez encore un peu, jusqu'à La compagnie des œuvres.
Du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Mécanique du journalisme. Une collection de podcasts originaux de France Culture.
L'affaire Benalla.
Regardez ça, comme une matraque.
Dans les coulisses des grands scoops de notre époque, racontés par ceux qui les ont révélés.
Je vous invite, monsieur Benalla, à prêter serment.
Il se fait passer pour un policier lors de manifestations du 1er mai à Paris.
De dire toute la vérité, rien que la vérité.
Celui par qui le scandale arrive et qui va ébranler jusqu'au sommet de l'Élysée.
Levez la main droite et dites, je le jure.
L'affaire Benalla, racontée par les journalistes Ariane Chema et Élise Carlin, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Il s'est éteint hier à cause du Covid-19. Valéry Giscard d'Estaing est mort. Président de la République entre 1974 et 81. Président de grandes réformes sociétales, comme la majorité à 18 ans. Retour dans ce journal sur sa vie politique et hommage à l'homme moderne qu'il était. À l'heure des grandes questions sur la vaccination contre le Covid-19, par ailleurs, vous entendrez dans cette édition comment des volontaires seront vaccinés en France ces prochaines semaines. Et puis la reprise du procès des attentats de janvier 2015, c'était hier devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Au revoir. Les photos de Valéry Giscard d'Estaing barrent ce matin les unes des journaux qui saluent le destin français et européen de l'ancien président. Et Valéry Giscard d'Estaing est décédé hier soir à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Et c'est la mort d'un géant de la politique française, Thomas Larabie.
Celui que l'on nommait souvent simplement par ses initiales, VGE, naît en Allemagne en 1926. Il débute sa carrière administrative et politique en tant qu'inspecteur des finances, puis député du Puy-de-Dôme à partir de 1956. Mais sa carrière prend réellement son envol lorsqu'il est nommé en 1959 secrétaire d'État, puis ministre des Finances sous la présidence du général de Gaulle, un poste qu'il continuera d'occuper sous celle de Georges Pompidou. Puis Valéry Giscard d'Estaing, qui souhaite faire de la France une société libérale avancée, ce sont ses mots, bat François Mitterrand dans la course à l'Élysée de 1974 avec un débat de l'entre-deux-tours qui reste dans les mémoires.
Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Valéry Giscard d'Estaing devient alors le plus jeune président du XXe siècle, est notamment voté sous sa présidence l'abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, le divorce par consentement mutuel ou encore la fin de la tutelle de la télévision publique. En lice pour un deuxième mandat en 1981, il est cette fois battu par son meilleur ennemi, François Mitterrand. Il ne quittera jamais vraiment la politique et sera par la suite élu député européen, avant de siéger au Conseil constitutionnel. Une carrière politique qui cache également une carrière littéraire. Ses nombreux romans et essais lui vaudront d'entrer à l'Académie française en 2003. Une façon bien élégante, comme toujours, de dire
au revoir.
Dernière phrase solennelle de Valéry Giscard d'Estaing, presque pittoresque, mille fois caricaturée évidemment ces dernières années. Valéry Giscard d'Estaing, président le plus jeune, nous l'avons dit, en 1974 à l'âge de 48 ans, avant d'être dépassé il y a 3 ans par Emmanuel Macron. L'actuel président de la République, Emmanuel Macron, salue d'ailleurs ce matin le septennat de Giscard d'Estaing qui transforma la France un homme politique de progrès et de liberté. La modernité, c'est aussi ce que veut retenir Hervé Morin, ancien ministre de la Défense et président centriste de la région Normandie.
Ça peut paraître aujourd'hui anachronique en 2020, mais il exprimait une réelle modernité. Il avait compris qu'après mai 68, il fallait moderniser la société française, moderniser la démocratie française, probablement aussi changer toute une série de codes. Parce que c'était un libéral, parce que c'était un homme qui était un humaniste et qui notamment voulait dépoussiérer toute une série, ou tout du moins ôter toute une série de carcans qui existaient encore dans la législation française et empêchaient cette modernisation.
Nous reviendrons évidemment tout au long de la matinale sur France Culture, sur la vie de Valéry Giscard d'Estaing, ses réformes, ses défaites politiques aussi et sa vision de l'Europe. Lui qui rédigea en 2005 une constitution européenne finalement rejetée par référendum. Vous pouvez aussi retrouver la carrière politique de cet ancien président de la République en son et en images sur notre site en une ce matin sur franceculture.fr. Les premiers tests de vaccins contre le Covid-19 en France. Des volontaires français vont tester 3 projets de vaccins dans les prochaines semaines. Ils sont au total 41 000 à s'être inscrits auprès de l'INSERM et ils seront vaccinés au fur et à mesure, Solène Lehen. D'ici une dizaine de jours, 1000 volontaires français commenceront à tester le projet de vaccin d'AstraZeneca, celui dont le laboratoire a déjà dévoilé ces dernières semaines de premiers résultats obtenus à l'étranger. Les patients recevront deux doses, soit du projet de vaccin, soit du placebo. À partir de la mi-décembre également, la même opération sera menée pour 1000 autres volontaires français avec cette fois le projet de vaccin de l'industriel Janssen qui entre dans la dernière phase de test, la phase 3. Enfin, dernier essai sur le projet de vaccin de l'Amérique. Moderna. Cet essai va se pencher sur un point en particulier, savoir si le produit est efficace chez les personnes âgées, dont on sait qu'habituellement elles répondent moins bien aux vaccins, comme celui de la grippe par exemple. Le professeur Odile Launay coordonne la plateforme vaccinale.
On va recruter environ 180 personnes, dont 120 qui seront des personnes âgées de 70 ans et plus. L'objectif étant de comparer la réponse immunitaire entre les plus âgés et les plus jeunes.
Cet essai devrait débuter d'ici la fin du mois ou au début du mois prochain. L'INSERM assure être en contact avec d'autres industriels et laboratoires qui souhaitent aussi tester par la suite leur futur vaccin.
Et sachez par ailleurs que le gouvernement français doit préciser aujourd'hui sa stratégie de vaccination pour les mois qui viennent. Jean Castex, le Premier ministre, prendra la parole en fin d'après-midi. Sans attendre la publication du compte-rendu final qui est prévu la semaine prochaine, les députés Les Républicains Éric Ciotti et Damien Abad ont présenté hier les grandes lignes de leur rapport de la commission d'enquête sur le Covid-19. Après 6 mois d'audition, les parlementaires soulignent dans ce rapport une série de dysfonctionnements sur les stocks stratégiques, la gestion des masques, la politique des tests et la situation dans les EHPAD notamment. L'Assemblée nationale où sera débattu aujourd'hui un texte mené par la droite, validé déjà par le Sénat. Il vise à garantir dans la Constitution la prééminence des lois de la République. La droite veut en fait inscrire dans le texte constitutionnel que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. À quelques jours de la présentation du projet de loi sur les séparatismes en Conseil des ministres, projet de loi soutenu par le gouvernement, la majorité se retrouve un peu au pied du mur, Rosalie Lafarge.
Ce texte, pour la majorité, c'est de l'opportunisme. C'est en résumé ce qu'ont dit les députés en commission, Bruno Ketel, chez les Marcheurs.
Le groupe La République En Marche ne votera pas cette proposition de loi constitutionnelle que, pour ma part, je qualifierais de cosmétique.
Inutile aussi pour Laurence Wisniewski au Modem.
Qu'est-ce que le séparatisme islamiste serait empêché de faire par ce texte qu'il a la liberté de faire aujourd'hui en l'état actuel de notre Constitution ? Rien, je crois.
La proposition n'a donc quasiment aucune chance d'être validée. À droite, on dénonce l'attitude politicienne de députés vexés de se faire griller la priorité à une semaine de la présentation du projet de loi séparatisme.
Il faudra qu'ils s'en expliquent le moment venu.
Annie Genevard, rapporteure de ce texte pour Les Républicains, appelle à la responsabilité.
On ne peut pas, au lendemain des attentats, la mort de Samuel Paty, l'attentat de Nice, qui s'ajoute à tous les autres, pleurer nos morts et déplorer les effets du fondamentalisme radical musulman, et en même temps s'opposer à une démarche qui vise puissamment à le combattre. Il y a un moment, il faut choisir le parti de la cohérence.
La majorité présidentielle est-elle vraiment prête à combattre l'islamisme en France ? C'est finalement à cette question, veut croire la droite, que les troupes macronistes s'apprêtent à répondre non tout à l'heure.
Rosalie Lafarge. Après un mois d'interruption, le procès des attentats de janvier 2015 a repris hier devant la cour d'assises spéciale de Paris. Une journée marquée par des incidents à répétition. Le principal accusé souffrant toujours de vomissements mais refusant de prendre son traitement et invectivant la cour à plusieurs reprises. Le président a fini par décider de son expulsion pour permettre aux avocats de continuer à plaider sans être interrompus. 6 mois après sa formation, le gouvernement d'union en Israël a fait un premier pas hier vers sa chute. Les députés ont appelé par un vote préliminaire à la dissolution du Parlement et à la convocation de nouvelles élections en Israël. Cette nouvelle crise s'accompagne d'une guerre des mots entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Benny Gantz. Cela pourrait donner lieu à un 4e scrutin législatif en 2 ans dans le pays. Aux États-Unis, il avait affirmé la semaine dernière s'en remettre au collège électoral pour laisser sa place à la Maison-Blanche, mais cela ne veut pas dire qu'il accepte sa défaite. Donald Trump a mis en ligne hier soir une vidéo, 45 minutes de discours où il n'est question que de fraude, de scrutins volés et de recours en cours. Extrait.
This may be the most important speech
C'est peut-être le discours le plus important que j'ai jamais fait. Je veux faire le point sur nos efforts en cours pour mettre au jour les énormes fraudes et irrégularités lors des élections ridiculement longues du 3 novembre. Beaucoup de mauvaises choses se sont produites pendant cette période ridicule. En tant que président, je n'ai pas de plus grand devoir que de défendre les lois et la Constitution des États-Unis. C'est pourquoi je suis déterminé à protéger notre système électoral, qui fait actuellement l'objet d'une attaque et d'un siège coordonné.
Donald Trump, traduit à New York par notre correspondant Sébastien Paour. Donald Trump qui évoque maintenant ouvertement la possibilité de se représenter en 2024. L'extrême sud de la France fait figure d'exception aujourd'hui avec un grand soleil. Ailleurs, les pluies vont arroser le pays. Ce matin, il fait 3 degrés à Strasbourg, 7 à Paris et 13 degrés à Perpignan. Il est 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture et c'est avec vous Jacques Meunier. Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Le Conseil national d'évaluation des normes a été saisi, Jacques, par le gouvernement de l'avant-projet de loi confortant les principes républicains, un projet destiné à lutter contre les séparatismes et qui doit être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres.
Oui, alors cette haute autorité chargée du contrôle et de l'évaluation du droit applicable aux collectivités est consultée pour tout texte législatif ou réglementaire concernant les collectivités territoriales. Et c'est peu dire que l'avis rendu, en l'occurrence, est d'une rare sévérité, résume dans Le Monde Patrick Roger. Non que les représentants des élus aient quelques réserves vis-à-vis de l'objectif poursuivi de prévention et de lutte contre les radicalisations, et de tout ce qui peut remettre en cause la laïcité et la neutralité du service public, souligne le président du Conseil, Alain Lambert, mais les moyens envisagés les ont un peu agacés, pour ne pas dire indignés, en cause l'article 2 qui permet au préfet d'introduire une procédure de référé-suspension prenant effet immédiatement en cas d'atteinte au principe de neutralité des services publics ou de, je cite, « carence républicaine », une expression qui cristallise l'exaspération. Les maires dénoncent un signe de défiance insupportable et y voient l'indice d'une volonté de reprise en main de l'exécutif sur les élus locaux. C'est une façon de revenir sur les lois de décentralisation, une manière rampante de redonner aux préfets le contrôle a priori qu'ils ont perdu, estime Alain Lambert. Avant même que soit rendu l'avis du Conseil d'État, celui du CNEN augure de fortes résistances, notamment de la part des élus locaux, à certaines dispositions de la loi sur les séparatismes. Même réaction dans Le Monde associatif au sujet du contrat d'engagement républicain prévu dans le projet de loi. Dans l'Express, Agnès Laurent cite les propos du chef de l'État au Mureau le 2 octobre sur ses associations proposant des activités sportives, culturelles, artistiques, linguistiques ou autres qui déploient en réalité des stratégies assumées d'endoctrinement avant d'avertir que le versement des subventions serait désormais conditionné au respect des principes républicains. La formulation est reprise quasi intégralement dans l'un des articles. 10 thèmes figurent dans ce contrat d'engagement républicain, dignité de la personne humaine, égalité entre les hommes et les femmes, fraternité et rejet de la haine, respect des symboles de la République, respect de la légalité, de l'ordre public, j'en passe, hein. Respect de l'environnement, emploi de la langue française. En cas de non-respect, les sanctions iront du licenciement d'un salarié ayant un comportement séparatiste à la dissolution de l'association elle-même ou à la suspension de ses subventions. Si la plupart des maires approuvent l'initiative, certains d'entre eux ayant déjà diffusé une charte locale, du côté des associations, les réserves sont nombreuses. Certains responsables s'étonnent qu'il faille signer un contrat pour respecter la loi. Ou s'il s'agit de renforcer le contrôle sur la laïcité, que vient faire le respect de l'environnement dans le texte ? Il ne faut pas restreindre le principe de la liberté associative au motif qu'une minorité commet des dérives. C'est un espace de respiration démocratique et de mobilisation citoyenne, souligne Jean-Paul Delahaye, référent laïcité à la Ligue de l'enseignement. D'autant que le contrat va plus loin, il engage non seulement à respecter les principes républicains, mais à les défendre et les promouvoir. Et il incite les dirigeants d'associations, les élus ou les familles à déclarer les comportements discutables dont ils sont témoins. Sans vouloir comparer les islamistes radicaux aux catholiques de l'autre siècle, Georges Valence revient dans Marianne sur la manière, parfois brutale, dont la Troisième République a imposé la législation laïque à une population majoritairement catholique, en s'en prenant d'abord à l'un des piliers du pouvoir de l'Église, l'enseignement, avec l'instauration de l'école laïque gratuite et obligatoire, puis en fermant les établissements des congrégations enseignantes, prononçant notamment la dissolution de la Compagnie de Jésus. Au petit matin, je cite, au petit matin du 30 juin 1880, la police force le portail de la maison mère, rue de Sèvres, à Paris, et fait sortir les religieux de leurs cellules. Puis vient le tour des associations religieuses, contraintes par la loi du 1er juillet 1901 de demander une autorisation, accordée ou non, par un vote au Parlement majoritairement anticlérical, de quoi préparer le terrain à la loi dite de séparation du 9 décembre 1905. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, cette question, le Hezbollah a-t-il plus que les autres au Liban une responsabilité dans la crise politique?
Oui, Emmanuel Macron n'a désigné personne hier en ouvrant la conférence d'aide au Liban, la deuxième depuis la double explosion cet été au port de Beyrouth. Il a de nouveau reproché aux dirigeants libanais dans leur ensemble de ne pas avoir tenu leur engagement de former un gouvernement et de lancer des réformes pour que l'aide financière ne vienne pas encore financer et maintenir un système, la corruption, une oligarchie qui a contribué à l'insondable trou du secteur financier libanais. Il n'a désigné personne donc, mais régulièrement le Hezbollah se sent visé par ses reproches et ce qu'il considère comme des intimidations de la part du président français. Bonjour Aurélie Daher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante chercheuse à Paris Dauphine et à Sciences Po Paris. Alors officiellement, le Hezbollah, par la voix de son chef Hassan Nasrallah, dit soutenir cette volonté de mettre en place un gouvernement d'experts choisis pour leurs compétences et non pour leur appartenance communautaire. Mais dans les faits, est-ce qu'il est aussi coopérant qu'il le dit?
En fait, la situation du Hezbollah dans tout ce que nous observons tentative de changement à la fois politique et institutionnel depuis une grosse année, disons, depuis l'automne 2019, au Liban est un peu particulière. Déjà, le parti en lui-même, la position du parti dans le système politique libanais est un petit peu particulière. Deux petits points qui vont un peu placer le décor. Le Hezbollah, c'est le dernier arrivé sur la scène institutionnelle libanaise. Il est arrivé au Parlement en 92, au gouvernement en 2005. C'est assez récent. Il n'a pas une présence massive dans le jeu politique libanais ou dans l'espace étatique libanais. Il a moins de 10% des sièges du Parlement, à lui tout seul, j'entends. Et puis, il n'a jamais eu plus de 2 membres du gouvernement sur des gouvernements qui en ont compté entre 24 et 30. Donc, il est effectivement très très fort. Il est le premier parti politique au Liban, mais il ne tient pas sa force par la présence massive de ses cadres au sein du jeu institutionnel. Sa vraie force, c'est ses alliances. Et effectivement, dans ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, il a son mot à dire, mais j'ai envie de dire, il a le même droit de veto que, c'est moins lui qui a le droit de veto que la coalition de ses alliés. En l'occurrence, il y a 2 partis qui aujourd'hui sont les réels piliers, disons les principaux acteurs qui mènent le balai actuel. Il y a donc Amal, le deuxième grand parti chiite, mené par Nabih Berri, donc le chef du parlement qui fait partie des personnes les plus conspuées depuis un an. Et puis il y a l'alter ego côté chrétien, donc Gibran Bassi, le gendre du président de la République Michel Aoun, qui mène le courant patriotique libre, le plus grand parti chrétien libanais. Alors, c'est ce trio, si vous voulez, qui fait la pluie et le beau temps et qui décide oui, on avance, non, on n'avance pas, oui, on bloque là, non, on ne bloque pas.
Et notamment le portefeuille des finances que le parti chiite Amal et le Hezbollah s'obstinent à vouloir conserver. Pourquoi il leur incombe et pourquoi veulent-ils à tout prix le garder?
Alors c'est plutôt Amal en fait qui est intéressé par le portefeuille des finances. Il y a d'abord une idée de continuité chez Amal, c'est puisque le portefeuille des finances, ça fait un petit moment qu'il est justement dans les mains d'Amal. Il y a toutes ces histoires d'audit, puisqu'on parle d'audit ou qui serait proposé. Alors on ne sait pas exactement si ce serait le FMI, la Banque mondiale, ou exactement ou à un cabinet indépendant qui effectivement mènerait l'intégralité de l'audit des comptes de la Banque centrale. Étant donné donné que on conditionne donc cet audit à une aide financière extérieure, on sent bien que du côté de Hamal, mais pas seulement du côté d'Hamal, du côté de tous les partis politiques qui ont grosso modo mis les doigts dans la confiture de la corruption et des accords un peu douteux avec le système bancaire depuis des décennies. On comprend bien qu'il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas envie que cet audit aille. Hezbollah, lui, s'en fiche pas mal.
Mais d'ailleurs, il s'en fiche et il s'est aussi dit favorable au préalable fixé par, c'est assez surprenant, au préalable fixé par le FMI et nombreux donateurs en échange de ces milliards de dollars d'aide, le développement de partenariats publics-privés, la réduction du niveau de la dette, des mesures d'austérité. Le Hezbollah a dit qu'il y était favorable. Est-ce qu'il a une vision, un programme politique qui contrecarrerait le système économique néolibéral?
Je pense qu'il faut comprendre exactement pourquoi il dit qu'il est d'accord. Tout d'abord, lui, comme je disais, il s'en fiche un peu parce que, paradoxalement, en étant le dernier politique arrivé justement dans le grand jeu du fromagisme et de la distribution communautaire des ressources étatiques, hein, c'est l'expression consacrée. Finalement, lui, il n'a que des miettes en fait de réelles dans ce grand jeu de prédation des finances publiques libanaises. Lui, il a des miettes et de toute façon, ça l'intéresse pas. Il a ses finances par ailleurs, donc lui, à la limite, il n'est pas visé directement par des mesures de rétorsion sur le plan lutte anti-corruption. En revanche, donc dire qu'il est pour la réforme, c'est déjà dire que moi j'ai la conscience tranquille. Et puis c'est une manière aussi de mettre un petit peu la pression sur ses alliés pour obtenir en échange de son soutien, du coup, des choses qui lui l'intéressent davantage, et notamment par exemple la protection de l'armement de ce qu'on appelle la résistance islamique au Liban, qui est la partie armée de l'organisation. Et lui, là déjà, le Hezbollah, ça l'intéresse davantage. Mais les discussions, ou en tout cas les sujets qui touchent la gestion des affaires libanaises au quotidien, c'est quelque chose qu'il regarde avec assez de recul.
Il avait dit il y a quelque temps qu'il soutenait l'idée d'une assemblée constituante pour discuter du renouveau du système politique libanais avec toutes les composante du pays, on parle bien du Hezbollah, mais pour autant, il n'avait absolument pas soutenu le mouvement populaire massif qui avait commencé le 17 octobre, donc les Libanais, les Libanaises qui ont exigé les premiers, le changement à la tête du Liban. Le Hezbollah n'a jamais soutenu ce mouvement, il a accusé les manifestants notamment d'être manipulés de l'extérieur, il n'a pas accepté non plus qu'une enquête internationale soit menée sur la double explosion dans le port de Beyrouth, donc c'est vrai que c'est une situation, enfin c'est une position pleine de contradictions que tient le Hezbollah aujourd'hui.
Disons que le Hezbollah a toujours été dans une logique, il y a moyen de discuter, ce qui est vrai, il y a moyen de discuter, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César, sans forcément les défendre et défendre leur programme, mais il faut reconnaître qu'ils sont toujours ouverts à la discussion, les canaux de communication sont toujours ouverts, mais ils sont prêts à beaucoup de concessions, encore une fois, à la condition que leurs intérêts, notamment les intérêts de l'organisation militaire, soient préservés. Ils fonctionnent comme un lobby, si vous voulez, bien plus qu'un parti de gouvernement. Donc j'ai envie de dire, eux, ils vont vous dire, je suis partant pour qu'on change le système. Hein, on peut passer par exemple un système one man one vote, ce qui n'est pas du coup un homme une voix, ce qui n'est pas du tout le cas du système institutionnel libanais actuel. Mais évidemment, il y a une condition sous-jacente, c'est il faudra qu'on se mette d'accord avec le nouveau régime pour que nos intérêts soient préservés.
Parce que est-ce que le Hezbollah a une sorte de veto quand même, c'est-à-dire si le Hezbollah bloque, rien ne peut se passer. Est-ce que les États-Unis qui veulent par exemple un gouvernement libanais sans le Hezbollah, est-ce qu'il se trompe ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire sans?
C'est complètement impossible. C'est-à-dire, c'est impossible d'abord parce que le Hezbollah, que ça nous plaise ou non, a une légitimité populaire, il a une légitimité démocratique, hein. Sa coalition est à la majorité des sièges au Parlement, parce que la majorité des Libanais ont voté pour sa coalition. Donc ça, on peut pas, les États-Unis ne peuvent pas demander un gouvernement où tout d'un coup, le parti politique le plus populaire au Liban, parce que c'est le parti politique le plus populaire, populaire serait absent de l'appareil exécutif. Ça, c'est déjà, d'un point de vue purement démocratique, ce n'est pas possible. Ensuite, comme je le disais, si les Américains mettent la pression en disant « je ne veux pas de Hezbollah dans le prochain gouvernement », de toute façon, les alliés du Hezbollah n'accepteront pas de permettre la formation d'un gouvernement où le Hezbollah ne sera pas là.
D'ailleurs, est-ce qu'au Liban, est-ce qu'on dit que la position américaine pourrait changer au Liban à la faveur de l'élection de Joe Biden et de l'assouplissement des relations promis, en tout cas, avec le parrain du Hezbollah, qui est l'Iran? Et est-ce que tout le Liban pourrait en profiter, puisque certains considéraient à l'époque que l'objectif de l'aile dure de l'administration américaine, c'était de couler le Liban pour couler le Hezbollah?
Alors effectivement, là je pense que tout le monde au Liban a bien compris que Joe Biden va très probablement reprendre la politique d'Obama, donc qui était une politique, on va dire, d'apaisement avec l'Iran, de rapprochement avec l'Iran, peut-être probablement de tenter de redonner une certaine place à l'Iran sur la scène régionale, peut-être même de lever une partie des sanctions, et ça, bon, tout le monde sait que c'est une bonne nouvelle pour le Hezbollah. Pour autant, je doute que le principal souci de l'administration américaine au Moyen-Orient va être le Liban. Ça, j'en doute.
Et d'ailleurs, lui, en attendant, en tout cas, que ce soit chose faite ou que de nouvelles relations se fassent jour, Hassan Nasrallah, il se cache depuis 2-3 jours. Il paraît avoir peur de subir le même sort que le scientifique nucléaire iranien tué la semaine dernière par des tueurs que l'Iran estime avoir été missionné par le Mossad. Israël, est-ce que le Hezbollah aurait les moyens et intérêt à riposter en cas d'agression?
Non, je pense que tout le monde a, des deux côtés de la frontière, côté israélien, côté libanais, tout le monde a retenu sa leçon de l'été 2006, quand on a eu cette grande guerre qui, pendant 33 jours et 33 nuits, donc a fait trembler la frontière, et puis pas seulement la frontière d'ailleurs, le Liban et puis le nord d'Israël. Tout le monde a bien compris que, grosso modo, on avait la capacité de l'autre côté de la frontière de réellement faire des dégâts sur le sol national. Et donc, bon, il peut y avoir de temps en temps des coups de gueule, des espèces de, on va dire, de tentatives de prendre la température, voir si est-ce que t'es prêt pour la bagarre ou pas. Mais en réalité, je pense qu'il y a assez de signes, de signaux en tout cas, qui disent que
tout le monde calme le jeu.
Au nord de la ligne bleue ou au sud de la ligne bleue, on ne veut pas de dérapage et on ne veut pas d'escalade.
Merci beaucoup Aurélie Dhaire d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le jeudi, tirons des plans sur la comète, Dominique Rousset.
Avec nos géographies, une intrusion par les cartes et les territoires dans les champs du politique, du social, de l'écologie, des pratiques culturelles, grâce à l'exploration d'une discipline à la fois très ancienne et sans cesse renouvelée, assez méconnue en fait. Nos géographies, le titre que nous avons choisi, parce qu'elles sont diverses et qu'elles parlent toujours de nous, où qu'elles se trouvent.
Nos géographies, le jeudi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous êtes bien sûr France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner, ça va?
Bonjour,
mieux
j'avoue. Bonjour à tous.
C'est votre humeur du jour, Guillaume. Valéry Giscard d'Estaing a été le dernier président moderne.
Et oui, VGE s'est éteint à l'âge de 94 ans. Hier soir, il avait gouverné la France de 1974 à 1981. 7 ans charnière, puisque c'est à lui qu'échut le triste privilège d'achever les 30 glorieuses et d'entamer les 30 piteuses. 1974 marquait non pas tant la fin de la croissance que la fin de la croyance en la croissance entre 1974 et 1981. C'est l'idée de modernité qui s'est brisée. La Citroën DS cédait la place à l'ASM. Et l'ASM, souvenez-vous, ne parvenait pas à convaincre entre 1974 et 1981. Le SICOB battait son plein. SICOB, Salon des industries du commerce et du bureau, avec en 1973 la présentation du Micral. Mais le SICOB, c'était aussi et d'abord une collection d'ordinateurs hétérogènes, incapables de se parler les uns les autres. La France de Giscard, ce fut aussi celle de l'achèvement de la défense, celle du centre commercial des quatre temps, parce qu'à l'époque, on croyait encore que le bonheur était dans les marchandises, on pensait qu'il fallait aux hommes de vastes et modernes centres commerciaux. Le septennat de Giscard vérifia en tout point la prophétie de Raymond Aron sur les désillusions du progrès, un questionnement que l'on peut résumer de la manière suivante. Pourquoi le progrès progresse-t-il sans que les hommes y croient encore? Pourquoi la foi du charbonnier en la modernité s'est-elle muée en défiance relative, sinon absolue? VGE était le dernier des modernes, avec ses manteaux en tweed, ses cols roulés, une France, ou plutôt trois Frances irréconciliables. La France économique dominée par la question de la croissance, la France politique dominée par la question de l'égalité, et enfin la France de la culture dominée par la question de l'épanouissement. C'est au cours de ce septennat que les Français se sont rendus compte qu'il n'était pas possible de conjuguer deux conserves, croissance, égalité et épanouissement, qu'il fallait faire des choix que nous sommes toujours incapables de faire. VGE a écrit 2 Français sur 3 parce que lucide, il savait que 3 Français sur 3 n'étaient pas d'accord.